On est toujours en direct sur Radio PFM, en direct du salon du livre, en public. Bon, pour l'instant, le public n'est pas encore arrivé, il est un petit peu tôt le matin. Par contre, notre premier invité, lui, est arrivé. C'est Tonio du journal La Brique. Salut Tonio.
Salut.
Alors, est-ce que tu peux présenter peut-être aux auditeurs, aux auditrices arageois, arageoises qui ne connaissent pas forcément ce journal, est-ce que tu peux nous présenter à nouveau La Brique ?
Donc, le journal La Brique, c'est un journal qui existe depuis maintenant 6 ans, 7 ans, qui était sorti en mensuel pendant toute une période. Et puis là, on a mis un peu la pédale plus douce et donc on sort tous les deux mois. C'est un journal d'enquête et de critique sociale, comme on l'appelle, et donc qui est basé sur la région Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire qu'on est diffusé en kiosque, dans tous les kiosques de la région. Plus on démarche nos dealers, mais alors nous on est beaucoup sur Lille, donc on a beaucoup de points de vente à Lille, mais voilà, on appelle aussi à ce qu'il y ait le plus de lieux qui puissent dans la région le vendre. Et voilà, donc on est une petite équipe d'une dizaine de personnes qui essayons de faire vivre un peu la critique sociale face au monopole de l'information détenue par le groupe Voix du Nord qui vient de faire fusionner les deux journaux, La Voix du Nord, Nord Éclair, et qui possède voilà, radio, télévision locale. Donc voilà, essayer de faire vivre une autre voix, une autre information sur la région.
10 personnes bénévoles, bon, pas facile de faire tous les deux mois comme ça un journal.
Alors on est entièrement bénévole, donc sans publicité à l'intérieur, donc on est entièrement financé par les gens qui nous achètent et qui nous soutiennent. Et voilà, donc un journal bénévole, et donc on a eu un peu de difficulté il y a quelques mois à rembourser l'imprimeur à chaque numéro, et là on commence à sortir un peu la tête de l'eau, mais voilà, il faut toujours continuer, vente à la criée, vente en kiosque, et n'hésitez pas à nous soutenir.
C'est un journal basé à Lille avec beaucoup de ses rédacteurs qui vivent à Lille, mais c'est aussi un journal qui a une portée, qui a une ambition régionale.
Voilà, on essaye au maximum de sortir de Lille justement, puisqu'on est diffusé sur l'ensemble de la région. Et donc voilà, on essaye via les enquêtes notamment, donc chaque numéro, il y a au moins 3-4 pages d'enquête assez approfondies sur un sujet. Donc on avait fait par exemple Louvre-Lens il y a maintenant plus d'un an, pour aller voir un peu ce qui se passait du côté de Lens. Et là, sur ce numéro-ci, on est allé voir à Boulogne-sur-Mer, où on s'est fait accueillir par toute l'équipe d'un journal qui s'appelle La Mouette Enragée, qui est diffusé sur la Côte d'Opale aussi en kiosque, qui sort moins régulièrement que nous, on va dire. Mais donc, qui nous ont accueillis du côté de Boulogne-sur-Mer et qui nous ont présenté un peu le panorama de la ville et de la pêche, à Boulogne. Donc, on en a sorti une enquête de 4 pages qui est un peu... voilà, la partie importante du journal pour ce numéro-ci, donc qui est le numéro 35, hein, on ne l'a pas dit, on est très fiers. 35 numéros.
Alors qu'est-ce qu'il en ressort de cette enquête sur la pêche à Boulogne ?
Alors l'objectif un peu, c'était d'aller questionner le slogan de la ville de Boulogne, qui est de dire « Boulogne, premier port de pêche en France ». Donc voilà, ça c'est un slogan qu'on a pu voir partout quand on est arrivé dans la ville de Boulogne. Et on s'est rendu compte que premier port de pêche, alors oui, c'est effectivement vrai en termes de tonnage et donc en termes de poissons qui arrivent dans le port, mais on se rend compte que ces poissons qui arrivent dans le port, ils sont moins en moins issus de la pêche qui se fait effectivement, et ils sont en très grande partie acheminés, notamment en camion, des choses qui sont pêchées en Irlande, en Écosse. Et donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une forme de spécialisation un peu des trois ports de la côte du Nord, c'est-à-dire Dunkerque, Calais et Boulogne. Calais s'est spécialisé dans les voyageurs avec le lien avec l'Angleterre, et Boulogne s'était spécialisé sur les transformations des produits de la mer, donc plus du tout sur la pêche. Donc, c'est-à-dire qu'on a un quartier, notamment le quartier qui s'appelle Cap-Écure et qui est le long du port, qui est un ensemble d'entreprises à Findus, où voilà, là on va transformer les produits de la mer, mais c'est plus là où on les pêche. Et en fait, on s'est rendu compte que la petite pêche artisanale, elle est complètement en train de se casser la gueule, que clairement, c'est pas ça sur lequel misent les élus locaux et les patrons du coin et la chambre de commerce du coin. Et donc, on a pu rencontrer notamment voilà, deux pêcheurs, Émilie et Thierry, qui nous ont un peu donné l'état des lieux un peu de la pêche artisanale à Boulogne, Et voilà, c'est pas très beau à voir. Donc voilà, ce qu'on voulait montrer, c'est que derrière ce slogan de Boulogne, premier port de pêche, eh ben, y a en fait une volonté de reconvertir la pêche dans le Boulonnais et de la reconvertir sur des secteurs plus industriels qui sont transformation, acheminement. Alors il y a un énorme centre logistique aussi, une des plus grandes plateformes européennes de logistique pour les produits de la mer. Et voilà, on voulait insister sur ces choses-là.
Est-ce qu'il est aussi question dans ce dossier de surpêche, hein, parce que c'est aussi un problème très important qui touche les consommateurs, les pêcheurs aussi, hein, finalement, quoi.
Alors bah voilà, là on l'a rencontré, bah voilà, indirectement, mais avec les problèmes de surpêche dans certaines zones où justement pour les petits pêcheurs artisanaux, c'est quasi plus possible d'aller pêcher et de prendre certaines zones. Donc on c'est des zones aussi qui vont être protégées. Mais donc protéger à la rigueur, des aires marines protégées, c'est très bien, mais on les protège. Les gros peuvent aller pêcher plus loin, peuvent aller pêcher au large et ramener des tonnes et des tonnes de poissons, mais pour les plus petits, ça devient quelque chose. Donc là, eux, ils sont complètement contre justement ces aires marines parce que ça les empêche de pêcher dans un cercle assez restreint. Donc voilà, on essaye de faire une typologie aussi des bateaux, d'être assez pédago pour les gens qui connaissent pas bien le monde de la pêche. Donc on a plusieurs types de bateaux, on a la petite pêche artisanale qui part sur une journée, qui fait un tour dans les mers qui sont proches du port et qui revient. On a la moyenne, on pourrait dire, qui elle peut partir 4-5 jours en mer, aller pêcher au large de l'Écosse. Et après on a les seineurs qui sont les bateaux cargo qui eux peuvent aller très très loin, partir en mer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et revenir avec des quantités de poissons qui sont assez hallucinantes. Et à chaque fois, à chaque bateau, il y a aussi sa technique de pêche propre. On a, pour les petits bateaux, les filets droits où les poissons s'en mêlent juste à l'intérieur. Et pour les plus gros, les seineurs, on a des filets qui sont énormes, qui ramassent un tas de poissons qui est en tonnes, qui est complètement hallucinant, qui rejettent à la mer beaucoup de poissons morts et donc qui pratiquent une pêche qui est vraiment néfaste pour la mer et pour la mer et pour l'écosystème marin, en fait.
On est toujours avec Tonio, l'un des rédacteurs du journal La Brique, sur le studio mobile de Radio PFM au Salon du Livre. Alors, l'un des autres attraits de votre journal, c'est qu'il chronique régulièrement des luttes sociales peu couvertes par La Voix du Nord et France 3 aussi au niveau régional. Alors, dans ce numéro 35, le numéro de mai, on peut dire ça comme ça, il y a un papier sur Renault à Douai.
Ouais, alors on est allé faire un tour du côté de Renault Douai, donc à chaque fois ou essayer de relayer ces luttes là si elles sont relayées dans la grande presse, elles le sont, mais de manière très très factuelle et très il pourrait dire neutre. Nous on essaye d'aller voir un peu plus loin et d'aller rencontrer les ouvriers sur ces usines là et donc là deux copains sont partis à l'usine Georges Besse de Renault Douai pour aller voir un peu comment s'organiser la résistance face à l'ANI, à l'accord national interprofessionnel qui se mettait en place, qui est utilisé là pour mettre en place un gros plan de remembrement un peu de toute l'usine. Et donc on donne aussi de l'information sur comment on travaille à l'intérieur de ces usines là, qu'est-ce que c'est les conditions de travail, avec le PDG de je ne sais plus quelle énorme boîte qui disait que les ouvriers français étaient des fainéants. Là, on peut voir que là, ils stoppent les machines juste pour pouvoir se moucher. Ils sont sur des cadences qui sont complètement infernales à l'intérieur de l'usine. Et donc, on essaye en même temps de voir un peu les forces en présence et comment, au niveau syndical, on fait pour s'organiser. Et ce n'est pas toujours facile parce que il n'y a pas toujours un front uni face au patronat. Et en même temps, essayer de donner un peu de vivant, voir comment ça se passe vraiment à l'intérieur de l'usine, quelles sont les conditions de travail effectives des ouvriers sur cette boîte-là.
Ce qui m'a frappé à la lecture de cet article-là, c'est le pessimisme des gens qui y travaillent, notamment un syndiqué sud à Renault Douai qui parle d'une fermeture dans 4 ans.
Ouais, alors de toute façon, il y a vraiment une certaine forme de pessimisme. Il y a des difficultés, on le voit, à avoir des positions assez combatives avec l'ensemble des syndicats. On a aussi des choses qui sont revenues dans beaucoup d'articles en ce moment, mais des positions politiques où donc on refuse de faire la politique politicienne, ça, ce qu'on comprend bien, mais des fois un peu, on rencontre beaucoup de d'idées du Front National, on pourrait dire un peu. Donc là, on l'a rencontré à l'usine Renaud Doué, et donc on voulait pas le taire non plus parce que ces choses-là, on les a, voilà, on les a vues. Mais on l'a rencontré aussi à Boulogne, et on voit un peu que c'est des idées qui commencent à, enfin voilà, à être présentes et tout. Donc et notamment dans les milieux ouvriers. Donc là, on voulait pas le taire. Il fallait le dire et le critiquer et pouvoir le montrer, mais on voulait pas le taire non plus. Et donc ça se retrouve dans au moins deux articles importants à l'intérieur du Canard. C'était un défi de. Enfin, on s'est posé des questions là-dessus. Voilà.
Autre article à lire dans la brique ce mois-ci, c'est un article intitulé « La police tue dans les corons ». Alors là, ça parle en fait alors de l'assassinat. Bon, la police dit que c'est un cas de défense,
légitime défense.
De légitime défense. Hein, la mort, en tout cas, de Laouchaït Oumgar à Montignan-Goël. Est-ce que tu peux nous en parler ? Comment vous avez là-dessus essayé de couvrir cet événement ?
Donc là, on a pu voir, notamment dans la Voie du Nord, donc il y a eu encore une fois un jeune des quartiers populaires, dit avec plein de guillemets issu de l'immigration, qui se fait tuer dans un quartier populaire d'une ville, donc la ville moyenne. Donc on est moins sur les grands ensembles, on est dans des maisons de courée. Donc voilà, là aussi, il se fait tuer par la police. Je ne sais plus quel jour précisément, le 28 mars. S'ensuit 2-3 jours d'émeutes, on pourrait dire, dans le quartier, avec notamment les copains qui, voilà, qui peuvent pas comprendre. Il faut savoir qu'il est mort de, je sais plus le chiffre précis, mais entre 3 et 5 balles dans le corps. Donc voilà, c'est des choses qui ont choqué immédiatement tout le monde. Donc certaines personnes sont allées sur place pour aller enquêter et aller rencontrer un peu et la famille pendant la marche qui a suivi le lendemain ou le surlendemain de la mort du jeune. Une marche blanche voilà, pour essayer aussi de calmer un peu l'atmosphère dans le quartier et tout ça. Donc on est allé rencontrer donc la famille, on est allé rencontrer le collectif qui s'est mis en place. Immédiatement, le collectif, il a été soutenu par des collectifs plus nationaux parce que ces histoires-là, elles se répètent depuis des dizaines d'années. Et donc, il y a des collectifs qui commencent à s'organiser et à essayer de mettre en lien un peu toutes ces affaires-là, quoi. Que ça reste pas sous l'état de faits divers et que c'est une affaire complètement isolée. Non, ça fait partie de la mort d'énormément de personnes dans ce cas-là. Et donc... Donc voilà, on allait rencontrer la famille, les soutiens, on allait rencontrer aussi également le journaliste de La Voix du Nord qui s'était chargé de rédiger les papiers, suite à la mort de Laoucine. Parce qu'à chaque fois, c'est exactement la même chose au niveau du traitement médiatique de ces affaires-là. On est toujours sur des cas légitime défense. De toute façon, les premières sources, c'est les sources policières. Donc c'est celles-là qui sortent immédiatement un ou deux jours après l'affaire. Donc c'est... tout le temps les sources policières dans la presse locale et presse régionale. Donc là, on a voulu aller questionner un peu le journaliste qui s'était chargé de rédiger les papiers. Et on se rend compte que concrètement, il n'y a pas de taf d'enquête réalisé auprès... Alors, il allait rencontrer la famille. Non, ils avaient l'air hostiles. Donc la famille a l'air hostile. Donc nous, on hallucine complètement. Nous, la famille, on l'a rencontrée pendant la marche qui a suivi la mort. La famille, elle n'est pas du tout hostile. Les gens, ils sont là, ils veulent discuter, ils veulent en parler. Donc voilà. Et puis pour finir par nous dire, mais je comprends pas pourquoi vous enquêtez là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous enquêtez là-dessus? Bon, on enquête là-dessus parce qu'on en a marre de voir des jeunes des quartiers populaires se prendre des balles par la police, quoi, en règle générale. Et donc un de plus. Donc nous, ça a fait écho à une affaire de laquelle on avait parlé d'Hakim Djelassi, qui était un jeune d'un quartier du Vieux-Lille, où voilà, c'était exactement la même histoire, le même truc. Donc voilà, on veut faire des liens entre toutes ces histoires-là et qu'elles ne restent pas isolées et qu'elles ne restent pas des faits divers.
Dernière petite question, Tonio, du journal La Brique. Justement, c'est sur un petit peu les rapports avec la Voix du Nord. Il y a une petite anecdote qui est dans l'édito ce mois-ci, qui est plutôt rigolote, que tu peux peut-être nous raconter un petit peu.
Voilà, bah donc l'édito, c'est un peu l'endroit où on se permet de parler un peu de nous et du fonctionnement interne. Et là, on raconte donc une anecdote. Jacques Ardouin, donc, qui est le patron du groupe Voix du Nord, donc même pas du titre, mais du groupe donc, qui dirige l'ensemble des médias dirigés par le groupe Voix du Nord. Intervenait au club de la presse à Lille autour d'un débat, autour de, voilà, de présentation de la marque Voix du Nord et sans doute de faire le point après la fusion entre la Voix du Nord et Nord-Éclair. Et donc on a assisté à cette petite conférence et ensuite à la fin on est allé lui voir et on lui a proposé le numéro dernier où il y avait justement un article un peu qui revenait un peu sur cette fusion entre les deux journaux et on lui a proposé d'acheter le journal. Mais Jacques Ardoin n'a pas de petite mitraille dans ses poches, il n'a que des gros billets, donc il s'est senti obligé de prendre un abonnement au journal, donc on en était voilà, très contents, et donc on le remerciait. Et suite à ça, il nous a dit qu'il y avait énormément d'erreurs, que de toute façon ce journal était un journal pas rigoureux du tout, et donc s'en est suivi un échange de mails avec lui, on lui demandait justement de mettre sur la table les erreurs, qu'est-ce qui s'était passé dans cet article pour ce toit. Il n'a pas le temps, mais en tout cas, voilà, donc on donne un peu d'extrait de ce petit dialogue-là qui nous a fait beaucoup rire entre le grand patron Voix du Nord et la petite brique qui essaye de jouer le poil à gratter.
Tonio, merci. Donc la brique, ça a retrouvé dans toutes les bonnes boucheries, tous les bons kiosques. Hein, c'est 2 petits euros, ça paraît tous les 2 mois et on lit ça très facilement avec beaucoup de plaisir tous les 2 mois. On va faire une petite pause musicale et dans un instant, on va retrouver nos invités suivants. On a Tom Jo, ancien rédacteur de la brique, qui est auteur d'un livre qui s'appelle L'Enfer Vert, réédité en tout cas aux éditions L'Échappée. Et on a aussi Cédric Biagini, l'un des coordinateurs des éditions L'Échappée, je dis pas de bêtises. on fait une pause musicale et on vous retrouve au micro du studio mobile de PFM. From